Bonjour à chacun. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec ce beau temps. Un plaisir aussi de vous retrouver pour ouvrir ensemble la parole de Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire encore aujourd'hui pour notre vie. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles à la lettre de 2 Pierre. Pour situer, c'est juste après un Pierre. Alors, vient de finir la semaine dernière la première épître de Pierre. Et ce matin, donc, on entame la deuxième épître de Pierre qui est plus courte. Et c'est une lettre qui a un ton assez grave pour la simple et bonne raison que Pierre dit qu'il l'écrit en attendant la mort. Il dit dans le premier chapitre « Je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. » Et on a une lettre qui est grave aussi parce qu'elle est polémique, c'est-à-dire qu'elle répond à des problèmes particuliers. Et au début du chapitre 2, qu'on verra dans deux semaines, on lit « Il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. » Donc c'est pour ça que Pierre envoie cette deuxième lettre pour répondre à ces hérésies, pour répondre à ces faux enseignants. Et il y a deux volets, on le verra, dans ces faux enseignements, il y a un volet plus théorique, plus théologique, et un volet tout pratique. Et on verra aussi que les deux ont un lien très fort. Alors, en quelques mots, que disaient ces faux docteurs? Ils disaient, on pourrait résumer par « Jésus ne revient pas, alors fais ce qu'il te plaira. » Et ces faux docteurs, en fait, remettaient en cause le jugement de Dieu qui allait venir. Ils étaient tombés dans la débauche et ils essayaient d'entraîner d'autres à leur suite dans la débauche. Et on a là une grande leçon que l'on retrouve dans toute la Bible depuis Adam et Ève, le veau d'or jusqu'à nous aujourd'hui en passant par de Pierre, c'est que l'idolâtrie et les faux enseignements mènent toujours à la débauche et à l'éloignement de Dieu. Ça, on le verra de manière très forte dans le chapitre 2. Juste pour situer le contexte, si on devait résumer la lettre, on pourrait la résumer en trois tableaux. Trois tableaux qui correspondent à chacun des chapitres. Le premier des chapitres, ce qu'on va voir ce matin, c'est la piété des enfants de Dieu. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, la vérité de la parole de Dieu. La piété et la vérité. Le chapitre 2, le mensonge et la débauche des faux docteurs. Et vous voyez comment le chapitre 2 fait écho au chapitre 1. Et le dernier chapitre, la certitude de la promesse. C'est la promesse de Dieu que remettaient en cause les faux docteurs. Et Pierre finit sa lettre en disant non, cette promesse est certaine. Jésus revient. Jésus revient pour juger le monde. Et les impies seront punis. Ceux qui se moquent de Dieu seront punis. Et en attendant, vous qui êtes justes, menez une vie sainte, avec une piété pure. Et dans toute la lettre, on verra comment Pierre encourage ses lecteurs à s'accrocher aux promesses de Dieu et à se souvenir, c'est un mot qui va revenir, à se souvenir des paroles des prophètes. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « La recette pour une vie pieuse ». J'aimerais qu'on lise ensemble donc les 11 premiers versets du chapitre 1 de 2 Pierre. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. La recette pour une vie pieuse. Et dans cette recette, je vous propose de voir deux ingrédients. Le premier ingrédient, c'est les dons de Dieu, les versets 3 et 4. Deuxième ingrédient, les efforts de l'homme, versets 5 à 11. Est-ce que j'aimerais qu'on retienne ensemble ce matin ? C'est que parce que Dieu nous a tout donné, faisons tous nos efforts pour vivre pieusement. Parce que Dieu nous a tout donné, faisons tous nos efforts pour vivre pieusement. Premier ingrédient, les dons de Dieu. Alors peut-être avant d'aller plus loin, il faut préciser ce qu'on entend par vie pieuse ou vie de piété. C'est quoi la piété ? En fait, c'est un terme qui est pas beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Surtout Paul qui l'utilise dans ses lettres à Timothée et à Tite, et Pierre dans sa deuxième lettre ici. Et si on devait définir simplement ce qu'est la piété, on pourrait dire que c'est connaître Dieu et vivre comme il veut. Connaître Dieu et vivre comme il veut. Et la piété, on va le voir, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste la qualité de notre relation à Dieu. Souvent, nous, quand on parle de piété, on pense à la prière, à la lecture de la parole, et c'est juste, ça fait partie de la piété, parce que la piété, c'est d'abord notre relation à Dieu, mais ça n'est pas que notre relation à Dieu, c'est aussi le comportement moral qui découle de notre relation à Dieu. Où j'aime bien cette définition d'un auteur qui a dit que la piété, c'est une vie qui honore Dieu entre le temps où je suis venu à lui et le temps où j'irai à lui. Et Pierre commence sa lettre en rappelant l'importance de la piété à ses lecteurs. Et on verra aussi qu'au chapitre 3, il finira là-dessus. Il finira en rappelant l'importance de la piété. Pourquoi ? Parce que la piété caractérise les enfants de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu reflètent Dieu. Et c'est ce que Raoul nous a lu ce matin. Si nous connaissons Dieu, nous sommes comme une lumière qui l'annonce à ceux qui nous voient vivre. Et ça sonne particulièrement fort dans cette lettre et pour ceux à qui Pierre écrit. Pourquoi ? Parce que les faux docteurs qui sévissaient, une des choses qui les caractérisait, c'est justement l'impiété. C'est justement le mensonge et la débauche. Et dans ce passage, on a un des versets les plus importants pour la vie chrétienne. Si vous vouliez mémoriser des versets de la Bible, vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille peut-être celui-là. C'est le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Pierre commence son exhortation, ses encouragements à ce que nous menions une vie pure, en nous rappelant que nous avons tout ce qui est nécessaire pour mener une vie pieuse. Rien ne manque. Et c'est une des meilleures nouvelles pour nous. C'est une des plus belles vérités de l'Évangile. Jésus a tout accompli et nous avons tout pleinement en lui. Jésus a tout accompli et nous avons tout pleinement en lui. Jésus est tout ce que nous devons connaître. Il est tout ce que nous devons posséder. Et les problèmes, souvent dans la vie chrétienne, en tout cas dans la mienne, ça commence souvent quand je commence à douter de ça ou à oublier ça. Quand je pense que, inconsciemment, je dois ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Oui, c'est suffisant, mais il faudrait quand même que je fasse ça. Ou c'est mieux si je fais ça. Ou alors quand je suis tenté d'aller chercher ailleurs qu'en Christ. Quand j'en veux plus. Quand je veux connaître d'autres choses. Expérimenter d'autres choses. Vivre d'autres choses. Et puis je me rappelle que c'est absurde. Vivre quelque chose de plus fort que Jésus. Vouloir autre chose que Jésus. Et là je me rappelle que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait et qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Et Pierre nous donne un antidote au défaitisme. Dieu nous a tout donné. Et c'est une réponse à ceux qui doutent de leur capacité. Une réponse aux chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas assez pour plaire à Dieu. Qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour mener une vie juste, pour mener une vie qui plaît à Dieu. Pierre commence en disant « Dieu nous a tout donné ». Que nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que ce que Dieu nous demande, il nous le donne. Il nous demande de mener une vie qui lui plaît et il nous donne les moyens de vivre cette vie. Il est possible, nous dit Pierre, de vivre une vie qui plaît à Dieu parce que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire à la piété. Et c'est ça le premier ingrédient d'une vie pieuse, les dons de Dieu. Regardez comment Pierre souligne à plusieurs reprises la manière dont tout nous vient de Dieu. Verset 1, c'est par lui que nous avons reçu la foi. Verset 3, on vient de le lire. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à une vie pieuse. Verset 4, il nous a donné les promesses les plus grandes et les plus précieuses. C'est Dieu qui nous donne. Une vie pieuse se vit grâce à Dieu. Et la piété, c'est une vie qui s'offre à Dieu, mais qui est vécue parce que Dieu nous offre. Nous n'offrons que ce que nous avons déjà reçu. Une vie pieuse, c'est une vie qui reflète et qui célèbre la grâce de Dieu. Revenons au verset 3. Pierre nous dit aussi que le moyen par lequel nous recevons tout ce qui est nécessaire pour mener une vie pieuse, c'est par la connaissance de celui qui nous a appelés. Et cette notion de connaissance, c'est une notion qui revient à plusieurs fois dans la lettre. Pierre la mentionne même dans les salutations, au verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ces notions de grâce et de connaissance vont aussi clôturer la lettre. Dans le dernier, tout dernier verset de la lettre, Pierre nous dit, il appelle les lecteurs à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et on a l'habitude d'entendre la mention de la grâce. On a l'habitude que les auteurs souhaitent la grâce, appellent la grâce sur leurs auteurs. Mais la notion de connaissance, elle est plus étonnante parce qu'elle est moins fréquente. Et on voit que la connaissance joue un rôle dans l'Épître en général et en particulier dans notre passage. Qu'est-ce que nous dit Pierre ici? Pierre nous dit qu'il n'y a pas de piété sans connaissance. Pas de piété sans connaissance. Mais de quelle connaissance parle-t-on? Est-ce que rechercher la connaissance, c'est pas risquer d'avoir un gros cerveau et un petit cœur tout sec. Et ici, Pierre nous donne deux critères pour avoir une connaissance saine. Ce premier critère, c'est que notre connaissance doit avoir pour objet Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons connaître. C'est Jésus-Christ que nous voulons connaître. Et en fait, cette connaissance dont parle Pierre, c'est une communion, c'est une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre sait de quoi il parle. Pierre sait que c'est dans la relation à Jésus qu'on vit la grâce. Pierre a vécu aux côtés de Jésus. Pierre a vu vivre Jésus. Pierre a entendu les enseignements de Jésus. Pierre a renié Jésus. Mais Jésus a relevé Pierre. Et Jésus avait dit à Pierre, « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est ce que fait Pierre ici. Il nous affermit. En nous rappelant la grâce de celui qui l'a relevé, alors que Pierre l'avait renié. Cette connaissance est une connaissance de Jésus-Christ. Deuxième critère pour avoir une connaissance saine, c'est qu'elle doit viser notre piété. Parfois on dit qu'elle doit descendre de la tête jusqu'au cœur. Je dirais, elle doit descendre de la tête jusqu'au cœur, jusqu'aux mains. Nous voulons connaître Jésus davantage pour lui ressembler davantage. Et c'est pour ça qu'un de nos buts ici à l'Église, c'est de mettre la Bible au milieu de tout ce que nous faisons, au centre de tout ce que nous faisons. Est-ce que c'est de la bibliolâtrie, comme certains l'ont pu dire? C'est des choses qu'on a déjà entendues. Est-ce qu'on est bibliolâtre à l'action biblique? Non. Non. On sait que pour grandir en piété, il faut grandir dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, il faut passer du temps dans la prière, auprès de lui, dans la parole par laquelle il se révèle, auprès de personnes qui le connaissent et qui le reflètent. Et c'est ça que nous visons. Pierre continue avec les dons. Il nous dit que les promesses les plus grandes et les plus précieuses nous ont été données. Pourquoi ? Verset 4. « Afin que nous devenions participants de la nature divine. » La première fois que j'ai lu ça, j'étais un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va devenir des dieux ? Non. Est-ce qu'on va se fusionner avec Dieu ? Non. En fait, ici, la nature divine, c'est le caractère de Dieu. C'est ses perfections. Et Pierre nous dit que nous sommes appelés à les partager et à le refléter. Nous voulons être comme Dieu est. Et on le voit aussi dans le contraste qu'il y a entre devenir participant de la nature divine et fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ressembler et refléter Dieu, c'est fuir la corruption. Ressembler et refléter Dieu, c'est connaître Christ. Connaître Christ, c'est fuir la corruption. On ne peut pas connaître Christ sans fuir la corruption et on ne peut pas fuir la corruption sans connaître Christ. C'est ce que nous dit Pierre ce matin. Et on voit ici que la piété n'a pas qu'une dimension religieuse, comme souvent nous on l'entend. Elle a aussi une dimension éthique. Vivre pieusement, c'est vivre justement. Connaître Dieu, c'est lui ressembler. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui sont plus âgés que moi, on n'est pas beaucoup, la pub dans les années 90, bio de Danone. Il y en avait plusieurs. Il y en a une qui s'ouvrait comme ça. « Oh purée, j'ai mal au ventre. » « Oui, mais attends, t'as vu ce qu'on mange ? » Vous vous rappelez pas de ça ? Encore une illustration qui va bien marcher. En tout cas, c'était une publicité donc pour ce yaourt, le bio de Danone, avec son fameux bifidus actif. Ah, maintenant vous vous rappelez. Voilà. Ils avaient mis un mot savant, comme ça, et ils pensaient qu'on allait dire, waouh, si c'est compliqué comme ça, ça doit marcher. C'est comme le nom des médicaments. C'est une autre histoire. Et le slogan à la fin de chacune de ces pubs, c'est « Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». À mode, tu connais, hein. C'est là, enfin, c'est terrible la pub, ça s'imprime comme ça. Pierre nous dit la même chose ici. Il dit « Plus notre connaissance de Jésus augmente, plus notre conduite sera juste. » Plus nous cultivons notre relation avec Jésus, et plus notre vie reflètera Jésus. Une vraie connaissance entraîne une juste conduite. Connaître Jésus, c'est vivre justement. Deuxième ingrédient, les efforts de l'homme, les versets 5 à 11. Certains connaissent ici les marceaux. Ah, il y en a qui ont compris que c'était une question. C'est vrai qu'avec moi, on ne sait jamais. Certains connaissent les marceaux. Les marceaux, c'était là où se déroulaient les camps d'été jusqu'à il y a quelques années, dans le sud-ouest, dans le Médoc. C'est aussi la propriété de mes grands-parents. Et ceux qui connaissent les marceaux, ceux qui allaient du vivant de mon grand-père, savent qu'il y avait un grand potager à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'en grandissant, petit, j'ai jamais connu d'autres légumes que les siens. Et quand on est arrivé à Etup, Alexandra et moi, on a habité pendant un an et demi dans le petit appartement qu'il y a derrière Claire et Serge à Etup. Et devant l'appartement, il y a une petite terrasse. Et devant la terrasse, il y a un petit coin de verdure. Alors Alexandra et moi, on a voulu tenter l'expérience du potager. Potager, c'est peut-être un grand mot. Mini potager, voire micro potager. Toujours est-il, c'était une bande de 1 mètre sur 6 à peu près. C'est pas grand. Mais ça nous a permis de manger nos propres légumes. C'était la première fois et c'est magique. C'est vraiment une super expérience. Et dans tout ça, j'ai remarqué une chose étonnante. Avant qu'on travaille la terre et qu'on plante des graines, rien n'a poussé. Pendant des mois, rien n'a poussé. Il faut planter des graines pour avoir des légumes. Dit comme ça, c'est un peu absurde, hein ? Et pourtant, c'est un peu la manière dont parfois nous fonctionnons dans la vie chrétienne. Parfois, nous voulons changer, nous attendons que Dieu agisse, on laisse Dieu faire, mais nous, nous ne faisons rien. Et vous savez ce qui se passe quand on ne fait rien ? Rien. Et c'est ça le deuxième ingrédient pour une vie pieuse, les efforts de l'homme. Dans le début du verset 5, Pierre nous dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts. » Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Et avec ces quelques mots, Pierre, il nous empêche de tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est celui du légalisme. On se rappelle que l'évangile de la grâce, c'est que Dieu a tout accompli et que nous avons tout en lui. Ça résume notre philosophie de la vie chrétienne. Christ a tout accompli et nous avons tout en lui. Et le légalisme remet ça en question. L'évangile dit « Jésus a fait », le légalisme dit « Je dois faire ». L'évangile dit « Tu as tout en Christ », le légalisme dit « Il te manque quelque chose ». Et le verset 5, ici, commence par « pour cette même raison ». Ou dans d'autres versions, « à cause de cela. Et de quoi parle Pierre ? Tout simplement de tout ce qui précède. Du fait que Dieu nous a tout donné. Que tout ce qui est nécessaire à notre vie de piété, nous l'avons déjà. Tout ce qui est nécessaire pour ressembler à Christ, Dieu nous l'a déjà donné. À cause de cela, faisons tous nos efforts. Parce que Dieu nous a tout donné, faisons tous nos efforts pour vivre pieusement. Et on aime le répéter ici à l'église, c'est une formule qu'on aime bien. Ça résume pas tout, mais ça dit beaucoup. La grâce ne s'oppose pas aux efforts, mais elle s'oppose au mérite. C'est ce que nous rappelle ici Pierre. J'aime beaucoup cette citation du théologien John Owen que je vous rapporte. Il dit « Voyons quel regard nous devrions porter sur notre devoir et sur la grâce de Dieu. Certains séparent ces choses considérées comme incompatibles. Si la sainteté est notre devoir, disent-ils, il n'y a aucune place pour la grâce. Et si elle est le résultat de la grâce, alors il n'y a pas de place pour le devoir. Seulement, notre devoir et la grâce de Dieu ne sont en nul endroit opposés en matière de sanctification, car l'un suppose absolument l'autre. Nous ne pouvons pas accomplir notre devoir sans la grâce de Dieu, et Dieu nous donne sa grâce dans le seul but que nous accomplissions notre devoir. » Pierre nous rappelle que la grâce, c'est le cadre dans lequel nous faisons tous nos efforts. Et regardez même le changement qu'il y a dans le texte. Avant le verset 5, Dieu présente les chrétiens, ses lecteurs et nous comme absolument passifs. Nous avons reçu la foi. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous fait connaître celui qui nous a appelés. Il nous a donné les promesses. Nous sommes absolument passifs jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, où Pierre nous exhorte à faire tous nos efforts. Faites tous vos efforts. Verset 10, efforcez-vous. L'indicatif de la grâce de Dieu est le fondement de l'impératif de la vie chrétienne. Tous ceux qui n'aiment pas la grammaire, ils ne vont pas retenir cette phrase. L'indicatif de la grâce de Dieu est le fondement de l'impératif de la vie chrétienne. Dit autrement, ce que Dieu fait est le fondement pour ce que je dois faire. Ce que Dieu fait est le fondement pour ce que je dois faire. Et celui qui fait un potager, petit comme le mien ou grand comme celui qu'avait mon grand-père, sait que dans tous les cas, in fine, la récolte ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'action de Dieu. Mais il sait aussi que la récolte ne dépend pas que de l'action de Dieu. Pour récolter, Dieu nous demande de compter sur lui et de travailler. Tous nos efforts reposent sur ce que Dieu nous a donné. Les efforts sans la grâce, c'est le légalisme. Mais la grâce sans les efforts, c'est la passivité. Et c'est ça le deuxième piège. C'est ça le deuxième piège que Pierre écarte d'entrée de jeu. La passivité et la paresse. Il nous dit, pour vivre une vie de piété, il faut faire tous nos efforts. Et c'est là encore une grande leçon de la vie chrétienne. Dieu se sert de mon obéissance pour me transformer. Quand je prie Dieu pour avoir plus d'amour pour mes frères et sœurs, Dieu me transforme quand je prie pour eux et que je leur fais du bien. Quand je demande à Dieu de m'aider à pardonner une personne, Dieu me transforme quand je prie pour lui et que je lui fais du bien. Quand je demande à Dieu qu'il m'aide à rester pur dans mes pensées, Dieu me transforme et me demande de désinstaller cette application sur mon téléphone. Dieu se sert de mon obéissance pour me transformer. On a vu dans la première partie, pas de piété sans connaissance. Ici, on voit pas de transformation sans obéissance. Et on voit la manière dont Pierre décrit les efforts. Il dresse une liste à partir du verset 5. Et cette liste n'est pas exhaustive. Et je ne vais pas commenter chacune des composantes de la liste. J'aimerais seulement relever deux, trois points avec vous. Un point qui est intéressant dans la liste, c'est que Pierre fait un lien entre la connaissance et la maîtrise de soi. Et c'est tout le contraire des faux docteurs qui tordaient la vérité et qui entraînaient ceux qui les écoutaient dans une vie de débauche. Et on le verra un peu plus tard. Ces faux docteurs promettaient une grande liberté. Et Pierre ironise. Je vous lis le verset 19 du chapitre 2. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Par leurs faux enseignements, ces faux docteurs-là entraînaient les plus faibles dans la débauche. Mais Pierre nous dit que leur apparente liberté était en fait un esclavage. Et il dit qu'ils étaient eux-mêmes esclaves de la corruption. Pourquoi ? Parce que chacun est esclave de ceux qu'il a dominés. Et nous faisons facilement asservir par tout un tas de choses. Et Pierre nous rappelle ici, en contraste avec ce chapitre 2, que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi et que le péché n'est plus notre maître, que Dieu nous a délivrés de son esclavage et que nous sommes libres de faire ce que Dieu veut. Parfois, les gens tiennent à leur liberté et on doit les suivre, on doit les encourager. La liberté, c'est quelque chose à quoi Dieu nous appelle. Mais la liberté de ceux qui ne connaissent pas Dieu est un esclavage à leur propre passion. C'est ce que dit Paul au début de sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2. Il dit, mais vous êtes esclaves de vos propres passions. Vous étiez morts dans les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous accomplissiez les désirs de votre chair. Dans le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, faire ce que l'on veut, c'est faire ce que nos désirs, notre nature mauvaise nous impose. Et la vraie liberté des enfants de Dieu, c'est quand nous faisons volontairement ce que Dieu veut. Et c'est magnifique parce que ce que Dieu veut, c'est ce qui est bon pour nous. Et c'est seulement en nous soumettant à Dieu qu'on devient vraiment libre. Et c'est ça le grand paradoxe de la vie chrétienne. Et un chrétien ne devrait pas dire « c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher ». Je ne dis pas qu'on ne peut pas connaître d'addiction. Moi-même, j'en ai connu. Mais on ne devrait jamais trouver ça normal. Et on devrait toujours se rappeler que Christ peut et veut nous en délivrer. Et si en ce moment vous êtes dans une addiction, si en ce moment vous avez un peu baissé les bras en disant « c'est plus fort que moi, je ne peux plus arrêter de faire ça, j'arrive pas à me sortir de ça », venez nous voir. S'il vous plaît, venez nous voir. On veut prier avec vous, on veut parler avec vous et voir comment Christ peut vous délivrer de cela. Deuxième chose que j'aimerais voir, dans cette liste, on a l'impression qu'il y a une progression. Il ne faudrait pas prendre cette liste comme un manuel, comme un fil conducteur à suivre. Mais j'aime bien ce que dit un des pères de l'Église, Ignace d'Antioche. Il dit « L'édifice de la perfection chrétienne a la foi pour fondement et l'amour pour couronne. » La foi pour fondement et l'amour pour couronne, c'est magnifique. Il parle de cette liste qui commence par la foi et qui finit par l'amour. Et Pierre nous rappelle, l'amour c'est comme la cerise sur le gâteau. Tous nos efforts, nous dit Pierre, doivent aboutir à l'amour. C'est ça que doit viser notre piété. À l'amour de Dieu et à l'amour de notre prochain. Voilà toute la loi et les prophètes résumés. Voilà toute la Bible résumée. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et on a là encore un antidote au légalisme. Souvent, ce qui alimente mes instincts de légaliste, c'est mon envie de me comparer aux autres. On regarde la manière de vivre des autres, on se dit, oh, au final, c'est pas si pire. On est quand même mieux que ce chrétien qui n'arrive toujours pas à arrêter de fumer. On est quand même mieux que ce chrétien qui vient qu'un dimanche sur deux. On est quand même mieux que celui-là qui n'est jamais venu aux journées de nettoyage. On est quand même mieux que celui-là qui ne fait que chauffer les chaises, je ne peux pas dire les bancs, qui n'est pas super engagé. Regarder au péché des autres, c'est souvent oublier les siens. Mais l'amour nous fait regarder les autres en voyant la manière dont ils reflètent Dieu. Si vous tournez la tête autour de vous, si vous regardez votre voisin, votre voisine, regardez les gens que vous allez sortir tout à l'heure, les gens que vous allez croiser vers la sortie. Chaque personne, chaque frère, chaque sœur est un témoignage de la puissance et de la grâce de Dieu. Se dire autre chose, c'est risquer le légalisme. C'est risquer l'amertume. C'est risquer la division. Chaque frère, chaque sœur est un témoignage de la puissance et de la grâce de Dieu. Et si on isole cette liste, on pourrait dire, oula, attention, légalisme, pas bien, moralisme, pas bien. Mais on a vu en fait que nos efforts rentrent dans le cadre de la grâce de Dieu et que ce que Dieu nous a donné est le fondement pour les efforts que nous sommes appelés à fournir. Et là, on voit que notre conduite témoigne de notre Seigneur. Ça revient plusieurs fois. Jésus, notre Seigneur, verset 2. Notre Seigneur Jésus-Christ, verset 8. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, verset 11. Parce que j'obéis à Jésus, je dis aux autres qu'il est mon Seigneur. Notre conduite témoigne de notre Seigneur et du royaume auquel nous appartenons. C'est quelque chose, encore une fois, que Pierre va reprocher à ses faux docteurs au chapitre 2. Il va parler de leurs faux enseignements, de la débauche dans laquelle ils sont tombés. Il va dire qu'ils sont allés jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et Pierre termine en nous donnant deux raisons supplémentaires pour lesquelles nous devons faire tous nos efforts à partir du verset 8. La première raison, elle est liée à notre identité. Et Pierre dresse un contraste entre le verset 8 et le verset 9, un contraste entre un croyant chez qui ses qualités sont présentes et se multiplient, et un autre croyant qui ne les possède pas. Et il nous dit, le croyant qui possède ses qualités, il parle de la liste qui vient juste avant, n'est pas inactif ni sans fruit. Il porte du fruit, il abonde, il est fécond. C'est un peu comme l'image de l'arbre qui fleurit, qui donne du fruit en sa saison du psaume 1. Celui qui a ses qualités en lui et s'y multiplie est comme un arbre qui porte du fruit. Mais regardez ce qu'il dit au verset 9 de celui qui ne possède pas. Il est aveugle, il est myope. Il voit rien. Il est amnésique, il a oublié. Et on se rappelle que ces deux notions d'aveuglement et d'amnésie, elles ont une dimension spirituelle. Ces notions qui reviennent souvent dans les reproches que fait Jésus, surtout envers ses disciples. Quand il leur dit, mais ne voyez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Il parle d'une cécité spirituelle. Il parle de leur incrédulité. Et ici, Pierre nous dit que celui qui est aveugle parce qu'il ne connaît pas ses qualités, il ne possède pas ses qualités, a oublié la purification de ses anciens péchés. Il a oublié que Dieu l'a racheté. Il a oublié que Dieu l'a sauvé. S'il n'avait pas oublié que Dieu l'a sauvé, il ferait tous ses efforts pour que cette grâce de Dieu porte du fruit chez lui. Et peut-être encore une fois que Pierre fait allusion à ceux qui sont laissés entraîner par les faux docteurs. Au verset 20 du chapitre 2, il nous dit « Après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il se laisse reprendre et dominer par elle. » C'est pourquoi, verset 10, il nous faut affermir notre vocation et notre élection. Ces deux termes, vocation et élection, font référence à notre salut. Et Pierre dénonce toute paresse qui pourrait entraîner ses lecteurs à retourner à leur vie d'avant. Ils ont oublié qui ils étaient, alors ils font comme ils étaient. Et c'est un peu le cas, on l'a vu dans l'Exode. Dès que le peuple est sorti, était dans le désert, traversait un moment difficile, ils ont oublié le salut. Ils ont oublié que Dieu les avait délivrés. Et ils commencent à dire, on n'était pas si mal en Égypte. Bon, on se faisait fouetter, mais c'était pas si mal. Ils sont devenus amnésiques parce qu'ils ont oublié leurs conditions premières. Ils ont oublié aussi que Dieu les en a délivrés. Et on voit ici que l'inaction ne produit pas la stagnation. Si je ne fais rien dans ma vie spirituelle, je ne fais pas du surplace, je recule. La vie chrétienne, c'est un peu comme une pente qu'on est sans cesse en train de gravir, mais qui est glissante. Et c'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que dès qu'on cesse de grimper, on redescend, on est attiré vers le bas. C'est comme le potager. Si j'arrête de travailler la terre ne va pas rester vierge. Bientôt, de mauvaises herbes qui vont pousser. Et pour récolter du fruit, pour récolter, il nous faut continuer nos efforts. Deuxième raison, c'est le dernier verset de notre texte. Dieu va nous accorder largement l'entrée dans son royaume éternel. C'est ce que nous promet la parole. C'est ce que nous rappelle Pierre. Et notre passage termine comme il a commencé, en soulignant la grâce de Dieu. Cette entrée dans le royaume éternel, ce n'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose que Dieu nous accorde largement. C'est quelque chose que Dieu se plaît à donner à ses enfants. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'il les aime. Par grâce. Et cette promesse doit nous encourager. Un jour, nous rentrerons dans le royaume éternel de Christ. C'est notre espérance. Mais en attendant, Pierre nous encourage à faire tous nos efforts, à persévérer dans le combat de la vie chrétienne. On est un peu comme des saumons qui remontent la rivière. On est en train de nager à contre-courant. Mais on a la force que Dieu nous donne. Et on connaît notre destination. On sait que Dieu nous soutient. On sait qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous remontions le courant. Et on sait qu'à l'arrivée, on sera dans son royaume éternel. Les faux docteurs disaient, où est la promesse de son retour? Rien ne change, tout est comme avant. Il ne reviendra pas, on fait ce qu'on veut. Pierre nous dit non, ses promesses vont s'accomplir. Il va revenir. Il va juger ce qui s'oppose à lui et accorder l'entrée du royaume à ceux qu'il aime. Et en attendant d'entrer dans ce royaume éternel de paix et de justice, faisons tous nos efforts pour affermir notre foi et notre élection. Parce que Dieu nous a tout donné, faisons tous nos efforts pour vivre pieusement. Parce que Dieu nous a tout donné, faisons tous nos efforts pour vivre pieusement. Je vais prier. Seigneur, on veut être plein d'humilité devant toi. On veut être plein d'humilité, de reconnaissance. C'est toi qui nous as tout donné. Tout ce que nous avons, nous te le devons. C'est ta grâce qui nous a arrachés à la corruption qui existe dans le monde. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as donné la foi, c'est toi qui nous as donné tout ce qui est nécessaire à la vie de piété. C'est toi qui nous fais porter du fruit et c'est toi qui nous apportera la délivrance. C'est toi qui nous accordera l'entrée dans le royaume. Et pour ça, on te dit merci Seigneur. On va avoir confiance en toi. On veut se rappeler que tu nous as tout donné. Que tu es tout ce que nous avons besoin. Garde-nous, Seigneur, d'aller chercher ailleurs. Garde-nous, Seigneur, de penser qu'il y a davantage. Garde-nous de penser, Seigneur, que la vie avec toi est fade. Garde-nous, Seigneur, de penser qu'il faut qu'on ajoute quelque chose à ton œuvre parfaite. Et Seigneur, donne-nous de la persévérance. Les efforts sont durs. C'est fatigant de remonter le courant. Nous sommes parfois tentés de nous laisser entraîner par le courant, d'aller dans le même sens que les autres. Mais Seigneur, donne-nous la persévérance. Donne-nous de continuer à te faire confiance et continuer à faire tous nos efforts. Seigneur, te bénis pour ton évangile qui nous délivre. Qui nous délivre de tout ce que les autres pensent de nous, de tout ce que nous pensons de nous. Aide-nous à nous occuper seulement de ce que toi tu penses de nous. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, que tu nous soutiens jusqu'à la fin, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta paix qui abondent quand nous grandissons en connaissance de Jésus-Christ. Continue de nous soutenir, Seigneur, pour ta gloire et fais de nous tes lumières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.